France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Cécilia Payne est l'autrice de la plus brillante thèse de doctorat jamais écrite. Ces mots sont ceux de l'astronome américain Otto Struve. La thèse en question a mis fin en 1925 à l'idée selon laquelle les étoiles et la Terre étaient composées à l'identique. Ce faisant, Cécilia Payne est devenue l'une des fondatrices de l'astrophysique moderne. Malgré l'importance de ses résultats, les pontes de son époque les ont d'abord niées avant de se les réapproprier plus tard. Science Chrono vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une brillante chercheuse dont les lumières ont bien failli devenir invisibles. Et pour parler de cette histoire stellaire, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Yaël Nazé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, maître de recherche FNRS à l'Université de Liège. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de la vie et des travaux en astrophysique stellaire conduits par Cécilia Payne, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons des découvertes réalisées récemment dans les eaux du port antique de Carthage et nous verrons comment elles nous éclairent avec de plus en plus de précision sur l'histoire de cette cité portuaire mythique qui est souvent présentée comme l'éternelle rivale de Rome au sud de la Méditerranée. Mais avant de mettre les voiles vers Carthage, je vous propose de regarder les étoiles. Yaël Nazé, le nom de Cécilia Payne est bien connu de la communauté des spécialistes en astrophysique, mais un peu moins du grand public et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant d'évoquer la thèse qu'elle a soutenue à l'observatoire de Harvard en 1925, il y a tout pile 100 ans, et l'importance des résultats présentés dans ce travail, il nous faut remonter aux origines du parcours de Cécilia Payne. Et pour commencer, j'aimerais qu'on présente tout simplement ce personnage, Yaël Nazé. Cécilia Payne est née en 1900 en Angleterre. Dans quel environnement social, culturel est-elle née ?
Alors, clairement, elle est dans une bonne famille. Hein. Son père est avocat, sa mère est peintre, sa grand-tante est botaniste. Donc, c'est une bonne famille, mais c'est une famille qui va l'intéresser très tôt aux sciences, lui faire remarquer ce qui se passe autour. Même dans son landau, à un moment, sa mère voit passer une étoile filante, elle lui fait remarquer et elle lui apprend une petite phrase, une petite comptine comme ça. Donc, vraiment, c'est une famille qui l'a très tôt initiée à regarder autour d'elle, finalement.
Elle avait une passion donc pour les sciences, elle était biberonnée aux sciences. En préparant cette émission, j'ai lu une anecdote qui m'a vraiment fait rigoler. À l'école primaire, elle avait mis au point un protocole scientifique pour vérifier l'effet de la prière en comparant les résultats à un examen de deux groupes. Un groupe qui avait prié, un groupe qui n'avait pas prié. Il se trouve que le groupe qui n'avait pas prié avait eu de meilleurs résultats à cet examen. Et donc du coup, la conséquence, c'est que Cécilia Payne est devenue agnostique. Elle a toute sa vie comme ça mis en place des petits protocoles scientifiques. Elle avait une passion, donc vous le disiez, pour l'astronomie, la botanique. D'où lui vient le goût pour cette dernière botanique de sa grand-tante, vous disiez ?
Oui, donc là, c'est effectivement, c'est plutôt familial en fait. Hein. C'est voyant que finalement, c'est toujours un peu comme ça. On regarde un peu ce que font les gens autour de nous et on s'en inspire. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour elle. Mais c'est vrai que l'astronomie était toujours derrière cette fameuse petite étoile filante qu'elle a vue dans son landau. Il y a aussi le passage à la comète de Halley hein, quand elle est enfant. Et donc, tout ça finalement fait que l'astronomie n'est jamais complètement oubliée.
C'est en tout cas la botanique qui lui permet d'entrer à Cambridge à 19 ans. Quelles étaient les conditions d'études pour les femmes dans ces grandes universités anglaises à l'époque, dans les années 1900?
Alors, déjà, il fallait avoir quand même une bonne formation en secondaire, ce qui n'était déjà pas simple. Hein. Trouver une école, notamment une école pour les filles, qui faisait quand même suffisamment de sciences, c'était pas évident. Et ça n'a d'ailleurs pas été évident pour Cécilia. Elle a fini par y arriver, mais disons qu'il a fallu qu'elle change quand même d'école. Disons que les diplômes sont effectivement ouverts. En tout cas, les diplômes de début, on va dire, de carrière universitaire. Donc, elle va pouvoir commencer ses études, mais elle ne pourra pas faire en Angleterre un doctorat.
Qu'est-ce qui va faire qu'elle tranche finalement entre la botanique et l'astronomie et l'astrophysique ? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va plonger à corps perdu dans l'astronomie et l'astrophysique ?
Et en fait, c'est une grande expédition, hein, celle de 1919. En fait, ce qui se passe, c'est que juste à la fin de la guerre, il y a une grande éclipse qui va se produire. Et lors de cette éclipse, il y a une équipe anglaise qui va vérifier une prédiction absolument incroyable faite par un Allemand, un certain Albert Einstein. Et cette prédiction, c'est que les masses courbent les rayons lumineux. Et en fait, Eddington va faire une conférence hein, à Cambridge où elle va en fait à laquelle elle va assister et elle va trouver ça absolument extraordinaire, absolument génial. Elle se souvient de tout. Elle dit même qu'elle a presque une espèce de crise de nerfs, quoi, à force de voir ça. Elle est dans un état un peu extatique. Et c'est là qu'elle va finalement complètement abandonner sa botanique pour se consacrer complètement à l'astronomie.
Et en 1923, donc, Cecilia Payne obtient son diplôme en sciences à Cambridge. À cette époque-là, vous le suggériez tout à l'heure, Yael Nazé, les femmes, bah voilà, les perspectives sont bouchées. Une fois qu'on a obtenu son diplôme, on ne peut pas faire de doctorat. Alors, qu'est-ce qui va se dessiner Exactement, comme choix ouais. possible pour Cecilia Payne à ce moment-là et quel choix va-t-elle faire ?
Ben, disons que ce qu'elle peut faire au mieux, c'est de devenir professeur, hein, professeur en secondaire. Mais elle, ce qu'elle aime bien, c'est la recherche. Hein, on en a parlé. C'est vraiment quelque chose dont elle rêve depuis tout enfant. Et donc, chercheur, c'est pas possible en Angleterre. Donc, elle essaie de voir. Et en fait, elle assiste à une conférence du directeur, du tout nouveau directeur d'Harvard, qui s'appelle Arlo Chapley. Et en fait, elle le contacte parce qu'elle sait que la situation aux États-Unis est différente. Et Arlo Chapley accepte effectivement de la prendre en doctorat, donc elle va devoir déménager, traverser l'Atlantique pour pouvoir faire sa thèse.
Arlo Chapley, on en parlera tout à l'heure et on verra son importance aussi dans l'histoire bouillonnante de cette astrophysique des années 1920, mais vous parliez de cet observatoire de l'Université de Harvard aux États-Unis. C'est un observatoire qui a aussi été très important dans l'histoire de l'astrophysique. Est-ce qu'on peut parler de ce contexte, de ce cadre de recherche et de ses spécificités, Yael Nazé?
Oui, en fait, c'est un observatoire qui, quand on est dans une bonne partie du 19e siècle, il n'y a pas grand-chose, il vivote, il n'y a pas énormément de projets, énormément de personnes. Et puis arrive un directeur qui s'appelle Edward Pickering, qui lui a une grande idée, c'est d'utiliser la photographie pour justement faire un grand catalogue d'étoiles et trouver un moyen, puisque évidemment avec la photo, on n'en voit plus qu'à l'œil nu, donc essayer évidemment de trouver un moyen de classer ces étoiles. Sauf que pour ça, il a besoin de sous, il a besoin de gens. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarcher en fait des riches demoiselles ou des riches veuves qui vont lui fournir l'argent pour pouvoir avoir des instruments et payer évidemment les salaires des personnes. Et puis, en fait, il va se rendre compte que engager des femmes, c'était très économique. Il peut engager 3 à 4 fois plus de femmes que d'hommes. Et donc, évidemment, pour lui, comme il a un grand projet, il a besoin de beaucoup de personnes. Eh bien, les femmes vont être une solution. Et donc, on va voir apparaître ce qu'on appelle le harem de Pickering, hein, c'est-à-dire tout un ensemble de femmes qui vont observer le ciel, qui vont vraiment arriver à classer les étoiles, à trouver une façon de les ordonner, qui est encore la façon dont on les classe aujourd'hui, en fait.
Ce harem, bon, c'est un terme qui est quand même assez réducteur, et pourtant il recrute un bon nombre d'astronomes féminines qui ont marqué quand même redoutablement l'histoire de l'astronomie.
Tout à fait,
on entend
oui.
parler de Annie Jump Cannon, de Henrietta Leavitt, de Wilhelmina Fleming, encore Antonia Mori. Le monde de cette observation des étoiles, de l'astrophysique stellaire naissante dans ces années 1920, quelles sont les grandes questions qui se posent et qui sont sur la table et voilà, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre finalement ?
Alors, quand on arrive en 1920, bon, on a donc cette fameuse classification stellaire hein, qui est totalement empirique. Donc, on comprend bien qu'il y a une évolution dans ce qu'on appelle les spectres. Hein, donc, c'est en fait la distribution de la lumière en fonction de la couleur. Et dans cette distribution de la lumière, c'est un peu un arc-en-ciel hein, finalement. Quand on regarde en détail, on voit apparaître des petites lignes. Et ces lignes correspondent à la trace d'éléments chimiques. Et donc, on a les femmes du harem avaient réussi à trouver, en particulier Annie Cannon, hein, réussi à trouver une façon une façon logique de les ordonner pour qu'il y ait une évolution douce d'un cas à l'autre. Et en fait, ça marchait très bien, mais on ne savait pas pourquoi il fallait les ordonner comme ça. Donc, on a déjà une première chose, c'est qu'on arrive à les classer, mais on ne sait pas pourquoi les classer dans cet ordre-là. Et puis, on ne sait pas pourquoi les étoiles brillent. On ne sait pas encore très bien quelle est la composition. On suppose que c'est celle de la Terre, parce que bon, la Terre, le Soleil, tout ce n'est du même nuage, hein, comme on pense à l'époque. Donc voilà, même composition globalement, c'est ce qu'on pense. Et puis, on n'a pas encore d'idée vraiment sur les galaxies. On a Arlo Chapley qui est justement celui qui vient de montrer en 1920 que le Soleil n'est plus au centre de l'univers, qu'en fait, le Soleil est sur le côté d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et quelques années après, on montrera qu'il y a même plusieurs galaxies. Donc, on est vraiment encore dans un monde très statique où il restait énormément de questions. Mmh. Les 1920, c'est vraiment le début de la deuxième révolution copernicienne.
Alors, on parlait de spectre. Dans ce spectre, il faut parler d'aires spectrales. Donc, cette analyse, finalement, d'aires spectrales qui sont des signatures, d'éléments chimiques, conduisait les astronomes à l'époque à la conclusion selon laquelle, bah, finalement, l'abondance, il y avait une abondance de certains éléments chimiques qui étaient les mêmes que ceux qui composent la Terre et que donc, du coup, la Terre et les étoiles étaient composées de la même façon. Et c'est là-dessus qu'arrive finalement Cecilia Payne. Comment va-t-elle s'emparer de cette question, de ce catalogue d'étoiles composé notamment par Annie Cannon? Quelle question elle va se poser, elle, Cecilia Payne, dans ce cadre-là?
Donc, elle va vraiment essayer de comprendre cette fameuse classification. Pourquoi cette classification, elle est faite comme ça? D'où ça vient? Parce que physiquement, quoi, hein, quelles sont les propriétés qui expliquent ça? Et pour ça, elle va utiliser une théorie qui est encore toute jeune à l'époque, hein, qui est la physique quantique. Donc, elle va prendre des résultats théoriques sur la physique quantique, sur les atomes, sur comment ces atomes réagissent quand ils sont ionisés. Et en fait, elle va essayer de comprendre quelle serait la signature de ce genre d'atomes et d'ions. Et alors, elle va en fait mettre en évidence que effectivement, cette suite logique de la classification spectrale, c'est tout simplement une suite de températures. En fait, on peut voir la trace d'éléments différents en fonction de la température. Mais ce qui se passe, c'est que en faisant ces calculs, elle se rend compte que pour pouvoir expliquer ce qu'on voit, eh bien, il faut que l'hydrogène soit un composant majoritaire des étoiles, l'hélium aussi, une grosse partie, et puis finalement tout le reste, ce qu'on pensait être vraiment la composition principale, bah, c'est des fifrelins, c'est vraiment quasiment rien comparé aux deux, hydrogène et hélium.
Alors pourquoi on était passé à côté de ça, à côté du fait que l'hydrogène et l'hélium sont majoritaires dans la composition des étoiles, à l'inverse de tout ce qu'on pensait avant?
Alors, en fait, il y avait globalement, je dirais, deux raisons. La première, c'est d'abord que l'idée, c'était que les étoiles et les planètes naissent d'un même nuage. Et donc, finalement, si ça vient de la même chose, on peut se dire c'est la même composition. Ça paraît relativement logique, hein, théoriquement. Et puis, d'autre part, l'autre chose, évidemment, c'est que ce qu'on avait fait, c'est qu'on n'avait pas fait de calcul atomique. On avait juste regardé le spectre des étoiles. Et quand on regarde le spectre du Soleil, c'est quand même celui qui est l'étoile la plus proche, donc celui l'objet sur lequel on a les données qui sont les meilleures. Eh bien, quand on regarde, on voit, on voit pas beaucoup d'hydrogène et d'hélium. Ce qu'on voit, c'est justement la trace des éléments qui se trouvent sur Terre. Donc, on se disait, c'est bon, quoi. Hein, l'idée théorique et ce qu'on peut voir, ça se ressemble, donc tout va bien. Mais quand on fait les calculs en fait en détail, eh bien, là, on se rend compte que finalement, il y a une espèce d'illusion. On ne peut voir qu'une petite partie des choses, et ce qu'on peut voir va dépendre justement de la température. Or, l'hydrogène et l'hélium vont être finalement quelque part des éléments qui ne sont pas si faciles que ça à voir dans les étoiles, même si c'est le composant majoritaire.
Alors à partir de ces travaux, donc Cecilia Payne arrive à une conclusion qui bouleverse littéralement l'histoire de l'astrophysique. Je vous propose d'écouter un extrait de son autobiographie, encore inédite en français, parue en 1984, soit 5 ans après sa mort. Elle y raconte avec quel enthousiasme elle parvient à son résultat. La lecture vous est faite par Maïwenn Guizhou, c'est l'archive de Science Chrono.
Il me vint à l'idée que l'on pouvait déduire le potentiel d'ionisation d'un atome d'après le comportement de ses raies dans la séquence spectrale, une fois que l'échelle avait été établie à partir d'autres atomes de propriétés connues. Donald Menzel eut la même idée à peu près au même moment. L'idée flottait dans l'air, et la publia lui aussi. Ah, si seulement nous avions pu unir nos efforts, mais cela ne fut pas le cas. Quand j'annonçai mon résultat au docteur Chapelet, son enthousiasme se ranima. Je devais l'écrire immédiatement et l'envoyer au Proceeding of the National Academy. Mais la date limite tombait le lendemain. « Écrivez-le immédiatement, s'écria-t-il, et je le taperai pour vous. » Quelle soirée glorieuse ! J'écrivais, il tapait, tard dans la nuit. Et le texte partit au courrier. 2 années d'estimation, de tracés, de calculs, et le travail que j'avais projeté était achevé. J'avais établi une échelle de température stellaire et mesuré l'abondance astrophysique des éléments chimiques. Ce devait être une thèse de doctorat, bien que, comme je l'ai dit, le diplôme m'importait peu. Docteur Chapelet me dit que je devais en faire un livre, que j'écrivis dans une sorte d'extase en 6 semaines. Il s'intitulait « Les atmosphères stellaires », mais j'y ajoutais un sous-titre, « Une contribution à l'étude observationnelle de la matière à haute température ». Sans doute, personne ne remarqua ce sous-titre un peu présomptueux. Quand je retournais à Cambridge après avoir terminé cette première étude en astrophysique, j'allais voir Eddington. Dans un élan d'enthousiasme juvénile, je lui dis que je croyais qu'il y avait beaucoup plus d'hydrogène dans les étoiles que tout autre atome. « Vous ne voulez pas dire dans les étoiles, mais sur les étoiles », répondit-il. À ce propos, j'avais raison. Et dans les années qui suivirent, il dut bien le reconnaître. Deux années de contact quotidien avec les spectres stellaires avaient fait émerger une idée centrale : la composition des étoiles était étonnamment uniforme.
Voilà, Yaël Nazé, l'extrait de l'autobiographie de Cecilia Payne. Alors, ce qui est impressionnant déjà dans ce texte, c'est l'enthousiasme avec lequel elle s'exprime et avec lequel elle fait part de ses découvertes. Et là, à la fin de cette lecture, on entend parler de ces deux ans. Deux ans, c'est rien du tout pour écrire ce genre de thèse qui renverse la table dans l'histoire de l'astrophysique. Elle obtient, pour la petite histoire, c'est la première personne à obtenir un doctorat en astronomie à l'observatoire de Harvard. Alors, dans ce texte-là, vous, Yaël Nazé, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce que vous retenez?
Il y a plein de choses. Il y a effectivement l'enthousiasme, il y a le fait qu'elle parle bien de sa contribution. Et quand on voit le titre qu'elle propose, hein, c'est aussi une petite contribution. Donc elle montre bien qu'elle n'est pas seule, que le travail de recherche, c'est un ensemble et que donc elle va fournir sa petite brique et elle ne revendique pas... je veux dire, un statut extraordinaire ou autre. Elle dit juste qu'elle va apporter sa petite brique. Mais c'est une brique, évidemment, qui est importante. Ça, évidemment, on s'en rendra compte plus tard. Mais voilà, ça montre bien un peu toute l'ambiance qu'on peut avoir dans la recherche. Elle a un enthousiasme extraordinaire, toute sa biographie. Hein, et comme ça, c'est très, très agréable à lire.
Ce qui est capital à comprendre, c'est que finalement, Cecilia Payne, elle donne un vrai sens physique à la classification spectrale des étoiles dans la lecture. On entendait parler aussi de l'enthousiasme de son maître d'études, Harlow Shapley. Est-ce qu'il était toujours aussi enthousiaste? Est-ce qu'il l'a vraiment suivi tout au long de son travail de recherche? Ou bien est-ce qu'il était il avait tendance à vouloir la freiner un peu?
Ben, disons qu'il était quand même assez enthousiaste pour l'aider, pour la suivre et ce genre de choses. Maintenant, bon, il y a deux choses. La première, c'est que quand elle a trouvé ce fameux résultat sur la composition principale des étoiles qui serait de l'hydrogène et de l'hélium, Shapley a eu quand même un gros doute. Hein. Il n'imaginait pas que ça puisse être possible. Et donc, il a demandé l'avis de son ancien promoteur de thèse qui lui-même a dit non, mais écoute, c'est juste pas possible, hein. Donc bon, écoute, elle peut publier, mais on va rajouter une petite phrase disant que c'est pas possible, et puis voilà. Et donc c'est ce qu'elle fait, en fait. Mais ce qui est très drôle, c'est de voir dans sa thèse qu'elle réinsiste quand même. À chaque fois, elle revient avec cette idée là alors elle remet bien toujours une phrase disant que
c'est invraisemblable,
enfin bon, il y a peut-être une erreur de calcul, quoi, mais globalement, le fait qu'elle insiste comme ça, qu'elle le dise plusieurs fois, on voit bien que même si à l'époque, évidemment, elle ne pouvait pas le clamer aussi fort qu'on peut le faire aujourd'hui, mais on voit bien qu'elle y tient, ce résultat-là, et qu'elle y croit. Bon, elle a bien été obligée, mais voilà. Donc ça c'est... Bon, voilà, Shapley, disons, ne l'a pas soutenue là-dessus. Et l'autre point, en fait, c'est que, manifestement, elle était très, très douée pour la physique théorique. Et le problème, c'est que quand elle a fini sa thèse et qu'elle va rester à l'Observatoire d'Harvard, l'Observatoire d'Harvard, c'est principalement un observatoire... Donc, qui fait des observations, qui fait du travail observationnel. Et Harlow Shapley, au lieu de la pousser à continuer finalement, parce que ça aurait pu fournir une espèce de complément, hein, au travail que faisait habituellement l'observatoire, elle lui a plutôt demandé de se mettre dans le moule et de continuer les travaux qui se faisaient là. C'est peut-être aussi une occasion manquée à ce niveau-là, mais bon, voilà, elle a continué son travail, mais cette fois-ci sur autre chose, en travaillant sur les étoiles variables.
Ce résultat capital qui est présenté dans son travail de thèse, vous le disiez, Harlow Shapley, il va s'en référer à son ancien maître de thèse, Henry Russell, qui est aussi un autre grand nom de l'astrophysique. Lui, il travaillait à Princeton, il va être donc lui aussi dubitatif et encourager Cecilia Payne finalement à ne pas publier son travail, ou en tout cas à mettre beaucoup de prudence dans la publication de ses résultats. Et puis finalement, Henry Russell, quelques années plus tard, il va tomber sur les mêmes résultats. Il va dire quand même assez honnêtement que Cecilia Payne avait trouvé la même chose, mais c'est à lui qu'on va attribuer finalement la paternité de cette découverte de la composition des étoiles majoritairement en hydrogène et hélium. Là, on est devant un cas assez banalement classique d'effet Matilda, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, dans son papier, on ne peut pas dire qu'il cite vraiment Cecilia Payne. Hein, donc, je vais dire, voilà, c'est clair que ça va être son papier qui va faire date, ça va être son papier qui va suivre. Parce que, bah, voilà, elle, c'est une, je vais dire, elle a fait son doctorat, donc c'est encore une jeune étudiante. Lui, c'est un ponte de l'astronomie américaine. Donc, forcément, entre les deux, bah, voilà, ça va être le ponte qui va gagner. Et surtout que quand il publie, bah, voilà, il ne remet pas, enfin, il ne précise pas d'où ça vient au départ. Quoi, hein, ouais. Donc, tout ça fait que ben, finalement ça aurait pu être oublié, mais ce qui est assez amusant c'est que finalement très rapidement on parle à Otto Struve là, qui dit que c'est la thèse la plus brillante, ben, donc ça montre bien que ça n'a jamais été complètement oublié. Pour une fois on s'est souvenu de Cecilia Payne,
c'est un cas paradoxal,
peut-être simplement parce qu'elle est... Oui, peut-être parce que justement elle est restée dans le domaine et qu'elle est restée sur place et qu'on s'est rendu compte, ah oui, mais attends, mais elle avait fait en fait ça avant. Et donc on ne l'a jamais complètement oublié.
Elle a été même mentionnée dans les astrophysiciens hommes de l'année aux États-Unis en 1926, si je ne dis pas de bêtises, c'était le titre de la revue en question. Je crois qu'aujourd'hui ils sont ces femmes et hommes de l'astrophysique aux États-Unis. Cecilia Payne, donc vous le dites, Yael Nazé doit se rentrer dans un moule de cet observatoire de Harvard. En 1931, elle obtient la citoyenneté américaine, et lors d'un congrès en Allemagne en 1933, elle rencontre un certain Sergueï Gapochkin qui a fui, lui, les purges soviétiques. Elle l'épouse en 1934 et l'aide à obtenir un visa américain et un poste à Harvard. Malgré voilà, ce mariage, le fait qu'elle ait des enfants, elle va continuer la recherche, qui à l'époque fait encore un peu scandale. Et sur quoi finalement Cecilia Payne et Sergueï Gapochkin vont-ils travailler, vont-ils poursuivre des travaux tout aussi important dans l'histoire de l'astrophysique?
Ils vont travailler sur les étoiles variables. Donc, on se rend pas compte quand on regarde comme ça les étoiles, mais elles changent en fait. Et donc, elles ont des propriétés. Elles peuvent varier pour beaucoup de raisons, hein, parce qu'elles ont un compagnon, parce que en fait leur surface est un peu comme une peau de tambour et vibre vraiment comme un instrument de musique. On peut avoir plein de raisons pour lesquelles les étoiles varient, mais évidemment, à cette époque-là, bah c'est le tout début. Hein, on commence seulement à en repérer pas mal, et donc en fait, ils vont vraiment non seulement découvrir beaucoup, mais vraiment les caractériser. Et donc, c'est un travail titanesque. Vous imaginez, à l'époque, il faut vraiment prendre photo après photo, et mesurer sur chaque photo le truc. Vous n'avez rien d'automatique, hein, donc c'est un petit peu compliqué, mais ils vont le faire, en fait, sur des milliers d'étoiles variables. Donc, franchement, ça va être... ils vont en découvrir de nouvelles, ils vont les caractériser. C'est quelque chose qui est absolument incroyable, quoi, pour pouvoir, justement, comprendre ces étoiles variables et pouvoir de nouveau les caractériser. Donc dire, ben celle-là, c'est tout ce groupe-là, ils ont des variations similaires, et donc c'est un type de variation. Et puis c'est la première chose à faire, hein, faire des classes comme ça pour pouvoir essayer de comprendre après. Et donc voilà, c'est vraiment un travail qui est un travail long et peut-être qui paraît pénible, hein, mais qui est absolument nécessaire pour pouvoir comprendre. Et d'ailleurs, bah, aujourd'hui, on comprend bien, beaucoup mieux, évidemment, ces étoiles variables.
Et Yael Nazé, est-ce que c'est pour ça, pour ces travaux-là sur les étoiles variables, finalement, que Cecilia Payne va obtenir une plus grande reconnaissance que pour son travail de thèse, véritablement?
Disons que ce qui se passe, c'est que forcément, comme elle va passer la majorité de sa carrière à faire ça, elle va surtout être connue dans la communauté pour ça, quoi. Mais je crois que sa thèse n'a jamais été complètement oubliée. Et puis, ben voilà, elle va quand même pouvoir, après-guerre, obtenir un poste. Hein, c'est quand même assez rare d'obtenir un poste à Harvard. Annie Cannon l'avait obtenu à 77 ans, donc on peut pas dire que c'est quelque chose qu'on obtient très vite. Mais elle va finir par obtenir un poste de professeur en 56. Ce sera la première femme professeure à Harvard.
Alors, parlons un peu de... Faisons une espèce de premier petit bilan de ses apports. Et puis aussi, j'aimerais qu'on réintègre un peu ses travaux dans l'histoire de l'astrophysique de ce début du XXe siècle. Vous le disiez, voilà, les années 1920, c'est vraiment un grand bouleversement. En plus, il y a le développement de la physique quantique, etc. Si on doit placer Cecilia Payne sur cette carte de l'histoire de l'astrophysique et de l'astrophysique moderne, où pourrait-on la placer ?
Alors, ce qui est assez amusant, et l'extrait l'a bien montré, c'est qu'en fait, quelque part, il y a toute une filiation. Donc, on part de ces femmes du harem d'Harvard qui vont réussir à trouver comment classer les étoiles. Puis on a Cécilia Payne qui va expliquer pourquoi il y a cette classification, quelles sont les propriétés finalement de ces étoiles. Et puis à la fin de l'extrait, elle parlait du fait que c'est finalement la composition entre les différentes étoiles est pratiquement toujours la même. Et ça, après-guerre, justement en 1956, c'est une autre femme qui va s'y attaquer et qui va montrer ce qu'on a souvent résumé en disant qu'on était poussière d'étoiles, c'est-à-dire qu'en fait, si la composition chimique est à peu près partout la même dans l'univers, c'est parce que ce sont les étoiles qui ont forgé ces éléments chimiques et donc qui sont la raison de notre existence, quelque part. Et donc, on a vraiment toute cette filiation, cette suite, c'est vraiment un continu, c'est pas juste des événements séparés. Cécilia Payne est vraiment un chaînon manquant entre ces différents domaines.
On peut donner le nom de cette astrophysicienne. Pardon, Yael Nazet, on peut donner le nom de cette astrophysicienne, oui, justement, qui reprend à partir des travaux de Cécilia Payne, qui pose cette idée selon laquelle on est tous des poussières d'étoiles.
Margaret Burbidge.
Voilà.
Qui va travailler avec son époux et quelques autres théoriciens.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est devant ce cas, au fait, d'une discipline qui était aux États-Unis, en tout cas, assez relativement féminine, on va le dire. Et j'aimerais qu'on fasse finalement, pour conclure notre discussion, Yael Nazet, un point, en fait, autour de la féminisation ou pas de l'astrophysique, puisque c'est vrai que quand on pense grande chercheuse du début du XXe siècle, on pense à Marie Curie, et puis en dehors de l'astrophysique, finalement, il n'y a pas trop de grands noms qui émergent, quoi. Alors, cette discipline-là, comment elle s'est maintenue féminine ou pas? Comment on peut faire une espèce d'état des lieux de ce qu'est l'astrophysique aujourd'hui? Est-elle encore une discipline qui, paradoxalement, ou en tout cas, attire encore plus de femmes ou pas?
Alors en fait, ce qui est assez amusant, c'est que les femmes ont fait de l'astrophysique ou de l'astronomie à l'époque très très tôt. Il y a les premières traces qu'on a de femmes astronomes, c'est il y a plus de 3000 ans. Et donc en fait, quelque part, on a eu comme ça des femmes astronomes qui ont été connues. On en a au 16e, au 17e, au 18e, au 19e. Et donc, bon, je veux dire, le fait qu'il y en ait comme ça un peu régulièrement fait que l'astronomie est vue comme une discipline féminine. Au point que, par exemple, quand les universités pour femmes se créent aux États-Unis, dans les différents cours, eh bien, il y a forcément l'astronomie. C'était inimaginable qu'il n'y ait pas l'astronomie parce que l'astronomie était vue comme une discipline finalement assez courante pour les femmes. Alors, aujourd'hui, en fait, quand on regarde, on est à peu près à 50-50 au niveau des doctorantes ou des étudiantes de master. Et ça change en fait après. Donc quand on regarde au niveau de l'Union astronomique internationale, on est à 22% de femmes parmi des astronomes professionnels. Donc on les perd quelque part après le doctorat. C'est typiquement pas c'est comme pour toutes les carrières qui sont très demandeuses, c'est pas vraiment une question de l'astronomie du domaine lui-même, mais plutôt de la société qui est autour et des facilités, par exemple des facilités pour mettre des enfants à la crèche ou ce genre de choses. Mmh. Donc là, on entre dans un autre domaine, je vais dire. Mais par contre, c'est vrai que effectivement, vous prenez dans les années 20, en physique, vous avez une physicienne, on prend les photos des congrès Solvay, il y a une femme. Vous prenez les photos des congrès astronomiques de l'époque, il y a un certain nombre de femmes. C'est vraiment pas zéro, quoi. Il y en a quand même un sacré nombre de pourcents, quoi, parce que justement, effectivement, l'astronomie engage les femmes depuis déjà des années quand on est au début du XXe siècle.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Yael Nazet, d'être venue nous raconter cette histoire et ce parcours de Yael Nazet dans cette astrophysique moderne naissante du XXe siècle. Et à très bientôt.
The sea or land, he held all the stars in the palm of his hand, and they ran through his fingers like grains of sand, and one little star. Then the Lord God hunted through the wild night air for the
the little lost star on the wind down there. And he stated and promised he'd take special care so it wouldn't.
Lost in the Stars par Abbé Lincoln dans Science Chrono sur France Culture pour tourner la première page étoilée de cette émission. On se dirige à présent vers un site archéologique qui brille dans l'imaginaire collectif.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Carthage, ce nom fait depuis toujours vibrer la corde du mythe, port d'abord phénicien situé au nord-est de l'actuelle Tunisie. Cette ville a été le foyer d'une culture punique qui a donné son nom aux fameuses guerres opposant Romains et Puniques au 3e et 2e siècle avant notre ère. Mais que sait-on réellement de cette ville et plus particulièrement de ses ports qui figurent autant au panthéon des légendes de Carthage que son général Hannibal? Si des fouilles avaient déjà été conduites pour comprendre ses infrastructures au 20e siècle, de récents travaux de recherche en géoarchéologie conduits conjointement par des équipes tunisiennes et françaises ont permis d'analyser des sédiments encore plus vieux que ceux connus jusqu'alors. L'objectif était clair, retrouver la trace des toutes premières installations portuaires de Carthage et leur redonner leur lustre millénaire. La mission a-t-elle été accomplie? C'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Philippe Guaran. Bonjour. Vous êtes géoarchéologue, chercheur au CNRS et au laboratoire Archéorient de Lyon, et vous êtes spécialiste de l'étude des ports antiques. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de vos découvertes récentes liées aux deux ports de Carthage, l'un militaire et l'autre de commerce. Alors ce nom de Carthage charrie tout un tas d'images plus ou moins véridiques et plus ou moins romantiques. J'aimerais que vous nous aidiez à y voir clair sur ce qu'était cette ville antique. On va commencer finalement, Jean-Philippe Guaran, par l'origine. Qui a fondé Carthage et quand ?
C'est une princesse, elle s'appelle Elissa et elle vient du Liban actuel, qu'on appelait à l'époque la Phénicie. Elle vient d'une ville portuaire qui s'appelle Tyr, au sud Liban. Et au 9e siècle, il y a un problème dans la famille et donc elle décide de partir avec ses alliés pour fonder une nouvelle colonie. Et elle va arriver aux alentours de Carthage, donc au milieu de la Méditerranée, et elle va fonder cette ville, donc au 9e siècle avant Jésus-Christ. Avec tout ce savoir-faire phénicien. Et elle va... Alors ça, c'est la légende. Hein. Mais les archéologues, et vous l'avez dit tout à l'heure, au XXe siècle, ensuite, vont, même au début du XXe siècle et fin du XIXe, vont valider cette date du IXe siècle lors des fouilles de la colline de Bisra à Carthage.
Quelle était la fonction première de cette Carthage fondée par Elissa?
Alors... Ce sont des Phéniciens, ça veut dire pourpre. Ils ont fait leur richesse sur cette glande qui est dans un coquillage, un gastéropode qu'on appelle le murex trunculus. Dedans, il y a une petite glande pourpre qui colore les vêtements et c'est des vêtements de luxe. Et ils ont besoin de faire du commerce, à la fois avec cette pourpre et autres, et ils vont aller ils vont dépasser les colonnes d'Hercule même, ils vont aller dans l'Espagne actuelle, ils dépassent les colonnes d'Hercule, c'est Gibraltar, et ils vont aller faire du Maroc, ils vont aller faire du commerce jusqu'au Maroc, jusqu'au Portugal. Et il leur faut, entre les colonnes d'Hercule et le littoral du Levant, Tyr, une escale, et Carthage est au milieu de la Méditerranée, et ça va être un port relais parfait.
Un port finalement, oui, à mi-chemin, idéalement situé. Pour quelles raisons Carthage prend-elle progressivement de l'ampleur, et même vraiment de l'ampleur, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ?
Ils arrivent, ils ont ce savoir-faire incroyable qu'ont les Phéniciens. C'est-à-dire que c'est une nouvelle thalassocratie. La thalassocratie, c'est une civilisation maritime qui se base sur deux éléments importants. Un pouvoir économique et un pouvoir militaire. Ce pouvoir économique, comme c'est un port, il y a des routes commerciales avec des bateaux de commerce. Ça apporte de la richesse. Mais pour renforcer et pour sécuriser ces routes commerciales maritimes, ils ont besoin d'une flotte de guerre. Et c'est la définition de la thalassocratie. Donc ils arrivent avec ce génie phénicien, ils se transforment en puniques.
Oui, il y a un glissement finalement civilisationnel où progressivement se développe une civilisation punique.
Exactement, ouais. On passe des phéniciens, puis des phénico-puniques aux puniques. Et ensuite, ils vont avoir de très bons ingénieurs. Alors déjà, ils vont guerroyer un petit peu en Sicile, parce que vous voyez, au large de la Tunisie, il y a la Sicile. Et là, les Carthaginois et les Grecs vont faire quelques batailles pendant quelques siècles. Finalement, ni les uns ni les autres vont gagner. Mais à un moment, ils voient quand même une troisième civilisation romaine qui arrive.
Là, on est en 264 avant Jésus-Christ, et là, ça va poser un petit souci. Ils vont s'écharper, justement, ils vont se disputer la Sicile. C'est le début, finalement, là, tout simplement, de la première guerre punique.
Exactement, c'est le début de la première guerre punique. Donc là, c'est une bataille vraiment, surtout au début terrestre, parce que les Romains sont pas très forts sur les batailles navales. Et ensuite, discrètement, ils vont quand même construire une flotte de guerre. Alors, les Carthaginois aussi ont une très belle flotte de guerre. Ils ont Appien, qui est un historien ancien, dit qu'il y a 200 navires de guerre quand même, voire 220 navires de guerre. Et malheureusement, à la fin de la première guerre punique, en 241, les troupes carthaginoises sont défaites au large de la Sicile, à la bataille des îles Égates.
Et là, du coup, les Carthaginois sont défaits, mais ils veulent prendre leur revanche, éventuellement. Oui. Et c'est là que va se préparer la deuxième guerre punique. Deuxième guerre punique qui va faire intervenir un nom légendaire dans l'histoire de Carthage, c'est Hannibal. Hannibal, lui-même, fils d'un autre nom comme ça qui parle, quand on a lu Salammbô de Flaubert, c'est le fils d'Hamilcar. Ouais. Hamilcar Barca, parce que dans le début de Salammbô, c'est la première phrase, c'est « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar », qui est une phrase assez légendaire dans l'histoire de la littérature française. Bref, passons. Cette deuxième guerre punique, quelle forme prend-elle et qu'est-ce que ça va donner?
Alors, Hamilcar, d'abord, regardons un peu Hamilcar. Il est malin. Il arrive à la fin de la première guerre punique. Il voit que les Carthaginois ont perdu la Sicile. C'est une catastrophe. Et lui, ce qu'il dit, on a perdu la Sicile, on va prendre l'Espagne. Et l'Espagne est très riche concernant les mines d'argent, de plomb. Et ça va permettre de renforcer la puissance de Carthage, qui renaît de ses cendres, en quelque sorte. Et ça va amener à la deuxième guerre punique, parce que les Romains commencent à avoir un peu peur de Carthage. Et il y a aussi cette idée, et vous l'avez dit avec Hannibal, il a été élevé en plus avec ce danger de Rome. Donc lui, il va partir d'Espagne, de Carthagène, il franchit les Pyrénées, il remonte la côte languedocienne, il arrive aux alentours du fleuve Rhône. Il n'y a pas de pont à l'époque. Les Romains ont des espions, ils envoient une légion romaine à Marseille, qu'on appelait Massilia à l'époque. Mais Hannibal est, disons, plus malin, plus rapide. Il arrive à franchir le Rhône avant que les Romains ne lui barrent la route. Parce que les Romains voulaient se placer en rive gauche. Lui, alors on ne sait pas encore bien où est-ce qu'il passe.
On n'a toujours pas retrouvé tout
ça. Alors il y a aux alentours d'Arles, ou un peu plus au nord à Tarascon, ou alors au niveau d'Avignon. Alors, chaque discipline scientifique a son hypothèse. Nous, les géographes, on dit ça doit être aux alentours d'Avignon, parce qu'Avignon, il y a la Durance qui apporte énormément de sédiments grossiers qu'on appelle les galets. Et lorsque la Durance, c'est cette confluence entre la Durance et le Rhône, arrive là, il y a une telle charge de galets qu'elle perturbe un peu l'écoulement du Rhône, qui va s'élargir en amont. Et il y a des îles, il y a l'île de la Barthelasse toujours. Du coup, il y a des cours d'eau moins larges, et probablement en amont, il y avait des endroits avec des îles et des chenaux moins profonds où Hannibal aurait pu passer avec son armée et ses éléphants.
Les fameux éléphants qui ont traversé les Alpes pour traverser les Alpes. L'Italie.
Et le problème de ce passage, c'est que le Rhône, il enlève les traces parce qu'il se déplace sur son lit avec le temps. Et du coup, la géographie de l'époque fluviale n'est pas la même de celle d'aujourd'hui. Et quand il se déplace, ce Rhône, c'est comme un meurtrier. Il détruit les indices de son passage, sa rive droite et sa rive gauche. Et les traces du passage d'une armée qui faisait quand même 100 000 hommes. Et du coup, pour nous, les scientifiques ou les enquêteurs, on a du mal à retrouver les indices parce que le Rhône a tout nettoyé.
Cette deuxième guerre punique s'achève en 201. Quelle est la conclusion de cette guerre-là? Comment ça se résout pour les Carthaginois?
Alors, c'est une catastrophe, puisque Hannibal n'arrive pas à prendre Rome, probablement parce qu'elle est trop grande muraille. Les Romains sont malins, ils envoient leur meilleur général, Scipion, mener combat en Tunisie. Du coup, Hannibal rentre vite et malheureusement à Zama, en 202 avant, eh bien, Hannibal perd la bataille contre Scipion. Et là, les Romains sont vraiment pas contents. Il faut pas que Carthage renaisse de ses cendres. Ils détruisent Carthage.
C'est la fameuse phrase donc qui va être un peu le sceau de cette troisième guerre punique entre 148 et 146, beaucoup plus courte celle-ci, cette phrase de Caton l'Ancien devant le Sénat, qui commençait toutes ses prises de parole et qui finissait toutes ses prises de parole par cette phrase « Delendo est Carthago », cette phrase qu'on a entendue mille fois si on a fait un peu de latin, « Carthage est à détruire ». Voilà. C'est ce que fait Rome, finalement.
C'est ce que fait Rome à la troisième guerre punique. Voilà. Définitivement, ensuite, Carthage est abandonné. Et après, aux alentours au moment de César, César dit non, mais il nous faut quand même un comptoir là. Mmh. On est au milieu de la Méditerranée, il faut remettre un port, en faisant attention, mais donc ils remettent un port. Et en plus, à l'époque, hein, au moment de César, la Méditerranée, c'est Mare Nostrum. Toute la Méditerranée appartient aux Romains. Hein.
Donc finalement, cette troisième guerre punique, c'est celle qui donne forme à ces ports de Carthage, tels qu'on les connaît quand on les observe de façon archéologique.
Ouais.
Et tout l'enjeu, c'est d'aller essayer de comprendre ce qu'étaient ces ports anciens, qu'était Carthage. Parlons de ce qu'on connaît de ces ports-là et de finalement de la façon dont ils incarnent la puissance de la ville de Carthage, à la fois d'un côté militaire et d'un côté commercial. Quelle forme ils ont ? Il y en a un, le port militaire, je crois, qui est vraiment un archétype de la beauté des ports antiques. Décrivez-nous ce port de Carthage.
Oui, c'est la forme parfaite, c'est la définition parfaite de la thalassocratie. Mmh. Vous avez un port circulaire, la forme parfaite, qui abrite 200 navires de guerre et un port commercial qui va abriter tous les navires qui font du commerce. Et ce port militaire, alors il est protégé, c'est un port secret, un port invisible. Les auteurs anciens disent qu'il y a des murailles très 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 élevées. D'ailleurs, les archéologues allemands, à la fin du XXe siècle, vont faire des fouilles, ils vont trouver les vestiges de cette muraille punique de mer pour protéger les espions. Pour protéger les espions de l'époque de cette...
J'ai presque un plan de film en tête d'un travelling qui montrait comme ça et tout d'un coup le port militaire apparaîtrait dans sa rotondité parfaite avec ses bateaux de guerre tous installés en cercle.
Et avec au centre en plus ce qu'on appelle l'îlot de l'amirauté.
Cet îlot-là, décrivez-le nous, et quelle était sa fonction aussi?
Alors il avait aussi cet îlot, alors il fait quand même 100 mètres de diamètre. Et il y avait tout autour des rampes de halage qui ont été fouillées par les archéologues britanniques et tunisiens. Et on pense qu'au sommet, il y avait aussi peut-être, ça n'a pas été préservé, hein, parce qu'après les Romains ont quand même beaucoup détruit, très probablement un phare ou une vigie en quelque sorte.
Alors parlons, puisque vous évoquez ces fouilles archéologiques, alors on n'a pas parlé du port commercial, plus difficile lui à définir, à décrire, Jean-Philippe Goiran, si oui, pourquoi, sinon pourquoi ?
Bon, il a été quand même bien fouillé par les archéologues américains.
Oui.
Et on se rend compte que c'est un port, au début on pensait que c'était un port rectangulaire, et on se rend compte qu'il est peut-être, c'est un port hexagonal un petit peu. Mais les grandes lignes, ça reste quand même un port rectangulaire. La particularité, c'est que le port de guerre était en lien avec le port commercial par un canal. Mmh. Et le port commercial était en lien avec la mer Méditerranée par un canal.
Et ces canaux, ces chenaux, on va en parler dans quelques instants, ont leur importance aussi dans la compréhension des infrastructures portuaires de Carthage. Cette archéologie des ports de Carthage, elle n'est pas simple, Jean-Philippe Goiran, parce que les infrastructures, le port artificiel qu'on appelle le coton, ont été réorganisés, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est ça. Le coton, effectivement, c'est O-T-H-O-N, c'est un peu le... C'est le port fermé ultra protégé qui est lié à la mer par un canal. Et il faut voir que la difficulté des fouilles archéologiques en contexte portuaire, en contexte côtier, c'est qu'au bout d'un moment, on tombe sur la nappe phréatique. Alors on peut utiliser des pompes, les archéologues utilisent des pompes, on va descendre un peu cette nappe phréatique de 50 cm, mais après on est coincé. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est on a apporté une nouvelle méthode par carottage et... On réalise donc des carottages en contexte côtier.
On va parler de cette géoarchéologie et de ces carottages, mais peut-être qu'on peut faire une rapide histoire des fouilles archéologiques qui ont été conduites de façon classique, entre guillemets, dans le port et dans les ports de Carthage entre les années 70 et 90 par les Britanniques et les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre de ces infrastructures portuaires de Carthage ?
Alors, ils ont confirmé quand même, l'archéologue britannique Hurst confirme les descriptions des textes avec ces navalias, ces rampes de halage, des navires de guerre. Et on mettait des rampes de halage pour deux raisons. D'abord, du coup, les navires de guerre étaient un peu... on pouvait pas les voir. Ensuite, donc on les sortait de l'eau dans des hangars à bateaux, légèrement inclinés. Ça permettait de les réparer, de les repeindre.
De faire sécher le bois.
De faire sécher le bois, tout à fait. Parce que plus le bateau était sec, plus il était rapide sur l'eau. Et plus il restait longtemps dans l'eau, plus il se gorgeait d'eau. Et les batailles navales, c'est des guerres éclairs sur l'eau. Il faut être rapide et les navires doivent bouger très rapidement. Et ensuite, ça permettait de les repeindre et de les entreposer aussi. Hein. L'eau abîme beaucoup. Et de pouvoir les sortir immédiatement en cas de guerre. Ensuite, dans le port commercial, là, c'est un archéologue américain qui va faire les premières fouilles. Et tous les deux, ils découvrent quelque chose d'assez remarquable. Ils découvrent que avant ces ports, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils découvrent les traces d'un canal punique, mystérieux, comblé. Et dont on a quelques vestiges, ça et là, sur les deux fouilles britanniques et américaines.
Quand il y a une énigme en science, généralement, il y a des hypothèses qui suivent. Alors, quelles sont les hypothèses qui sont émises sur la fonction de ce canal qui intrigue les archéologues à ce moment-là ?
Alors oui, les Britanniques montrent que les plus vieux vestiges du port militaire, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ. Les Américains montrent que les plus vieux vestiges du port commercial, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Or, la fondation, vous vous souvenez, c'est 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y a un gap, il y a un manque, il y a un hiatus. Et donc, nous, ce que nous essayons de faire par carottage, dont on va parler tout à l'heure, c'est essayer de retrouver les premiers ports, ce qu'on appelle les protoports, le port de fondation. Et on se dit, et les archéologues de l'époque se disaient aussi, très probablement, si on suit ce canal, qui est daté du 5e siècle avant Jésus-Christ, il va nous mener sur le port perdu du 5e siècle.
Parlons justement de votre approche, de cette approche par carottage. Pourquoi est-elle particulièrement adaptée à des recherches dans un contexte portuaire comme celui de Carthage ?
On l'a dit tout à l'heure, il y a cette nappe phréatique, c'est infernal. Hein. C'est vraiment très difficile pour les archéologues. Alors, ce que nous faisons, c'est qu'on fait des carottages, comme les carottes de glace, vous voyez, dans le pôle Nord ou pôle Sud. Et on descend donc on fait des carottages mécaniques rotatifs avec une trousse coupante en diamant. Et on descend, par exemple, sur 5 mètres, 10 mètres, parfois 15 mètres. On remonte des colonnes stratigraphiques, mètre par mètre. Et ça constitue des archives sédimentaires qu'ensuite on analyse comme un livre en laboratoire. Alors, si les archéologues, eux, lorsqu'ils font les fouilles, ils trouvent des tessons de céramique qui datent parfaitement les unités stratigraphiques, nous, par carottage d'un diamètre de 10 cm, c'est super difficile. Il faut avoir beaucoup de chance. Donc, comme dans un livre, la pagination, elle nous est donnée avec les datations radiocarbone.
Alors, quand on pense archéologie portuaire, on pense à des vestiges matériels, à des infrastructures, à des traces d'architecture, d'une certaine façon. Comment un cylindre de 15 cm de diamètre va-t-il nous renseigner sur un port antique comme celui de Carthage ? Quelles sont finalement les traces que vous allez, vous, analyser en tant que géoarchéologue ?
Alors, vous avez raison, c'est un peu des frappes chirurgicales, ponctuelles. Mais par rapport aux archéologues, on peut aller beaucoup plus profondément. Et on n'est pas gêné par cette nappe phréatique. Et on va atteindre, par exemple, on a atteint le substrat géologique. Et surtout, on a atteint la profondeur des bassins. On se rend compte, par exemple, que le bassin militaire fait 3 mètres de profondeur sous le zéro marin antique. Et le bassin commercial, lui, fait 5 mètres de profondeur sous le zéro marin antique. On le sait, et ce sont des données assez importantes, parce que ça permet de mettre en relation la profondeur des bassins et le tirant d'eau des navires. Et on sait, par exemple, les navires de guerre ont un tirant d'eau plus faible. Il faut qu'ils foncent, il faut qu'ils aillent vite. Donc, ils ont une moins grande amplitude dans l'eau. Alors que les bateaux de commerce, eux, ils sont chargés de marchandises, donc il faut un bassin plus profond. Et là, pour la première fois, on a mis en évidence ces paléoprofondeurs.
Alors, 2018-2022, c'est les deux campagnes de fouilles que vous avez co-réalisées avec vos collègues tunisiens. Si on doit finalement faire une espèce de tableau, de présentation de ces découvertes et de ce que vous n'avez pas réussi à découvrir par rapport à vos ambitions initiales, quel serait ce tableau-là ?
Alors, vous faites bien de rappeler les confrères tunisiens. Tout ça est rendu possible grâce à une collaboration très étroite et pluridisciplinaire avec l'Institut national du patrimoine de Tunisie, c'est la surintendance archéologique italienne, et mon collègue et confrère, le docteur Ahmed Gadoum, qui est archéologue et qui travaille aussi sur les ports et qui est archéologue plongeur. Alors, ce qu'on a montré au-delà donc de ces paléoprofondeurs, on a mis en évidence quelque chose de terrifiant pour nous. Ce sont des phases de curage. Un bassin portuaire, il se colmate avec le temps de sédiments. Il y a des sédiments qui s'accumulent au cours du temps.
Ça s'encrasse, quoi, d'une certaine façon.
Ça s'encrasse. Et c'est intéressant parce que pour nous, c'est le livre, hein. C'est les pages d'un livre qui s'accumulent. Et malheureusement, parfois, les ingénieurs de l'époque font du curage, du dragage. C'est-à-dire que pour maintenir en fonction les bassins qui se colmatent, ils viennent avec une sorte de godet et ils curent. Et pour nous, c'est terrible parce que c'est comme une bibliothèque qui brûle. Alors, on s'est rendu compte, et ça c'est pour la première fois, on s'est rendu compte que les ingénieurs puniques avaient fait ça, parce que jusqu'à présent, c'était surtout les ingénieurs romains.
À quelle époque à peu près?
Alors, on est entre les deux guerres puniques, hein, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, ce qui se passe, malheureusement, c'est que les Romains, après la Deuxième Guerre punique, donc ils détruisent Carthage, on l'a dit, ils abandonnent les ports, les archives sont toujours là. Et après, lorsque César dit il faut remettre en fonction Carthage, les ingénieurs romains arrivent et là, ils curent tous les sédiments dans le port de Carthage. Donc il y a une deuxième destruction terrifiante au moment de la remise en fonction des ports de Carthage. Mais certains de nos carottages, notamment dans le port commercial, arrivent à atteindre des strates un peu plus profondes et préservées.
Alors ça me fait peur, du coup, ça me fait me dire, Jean-Philippe Gouarant, que Carthage, l'antique Carthage avant la Carthage romaine, on ne pourra pas retrouver les traces de ces ports initiaux. Est-ce que c'est le cas ou bien est-ce que vous avez quand même quelques espoirs de pouvoir en retrouver des traces?
Oui, il y a eu un résultat assez intéressant, c'est qu'il y a un auteur ancien qui s'appelle Appien, qui décrit bien la Deuxième Guerre punique, et à un moment il décrit que le bassin circulaire militaire, qui ne communiquait qu'avec le port commercial, ça les Romains le savaient, discrètement pendant la nuit, ils vont ouvrir une deuxième passe directement vers la mer pour permettre à une flotte de sortir et de surprendre les Romains.
Une sorte d'échappatoire un petit peu.
Une sorte d'échappatoire, oui. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans nos carottages, dans certaines strates, on voit apparaître au début un port bien confiné, bien protégé, et d'un coup, des bio-indicateurs marins de type ostracode et des petits crustacés, des petites bestioles de la taille d'un grain de sable qui nous donnent l'information au IIe siècle avant Jésus-Christ qu'il y a une ouverture marine soudaine.
C'est-à-dire que ces micro-organismes-là vous disent « Ah tiens, l'eau a changé de composition et donc du coup il y a une entrée maritime à cet endroit-là, donc il y a forcément un canal qui est passé par là, c'est ça ?»
Voilà. On a peut-être les traces finalement sédimentaires de ces textes antiques.
Est-ce que, du coup, d'autres travaux de recherche vont être conduits dans ce sens-là, sur ces canaux-là? Quelles sont, finalement, les fouilles que vous envisagez pour la suite?
Alors, on est quand même assez tenté par ce canal mystérieux du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui fait quand même 25 mètres de large, 3 mètres de profondeur. C'est pas rien hein, pour le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un canal punique. On n'a pas d'autres exemples de canaux puniques de ce type-là. Alors, on arrive à le retrouver dans deux endroits, donc au milieu de l'îlot de l'Amirauté et sur la bordure du port commercial. Donc, on a plus ou moins un axe. Donc, on va aller avec Ahmed Gadoum l'année prochaine et le soutien de l'INP et du CNRS, plus vers le nord et plus vers le sud, pour voir d'où il vient et jusqu'où il nous mène. Parce que quand on imagine faire des fouilles archéologiques, parce qu'il faut, pour celles et ceux qui connaissent Carthage, tout est urbanisé aujourd'hui. Alors il y a des rues, il y a des canalisations, il y a des conduites de gaz, des conduites d'eau. Donc faire des fouilles dans ces endroits-là, ce n'est pas possible. Alors, de façon ponctuelle, avec un carottage qui fait seulement 8 à 10 cm de diamètre, on peut, de façon ponctuelle, réussir à suivre dans la trame urbaine ces anciennes formes et ces anciennes structures archéologiques.
Alors du coup, on a parlé de beaucoup du port militaire. Le port commercial aussi va-t-il avoir votre intérêt? Est-ce que c'est nécessaire de travailler toujours sur les deux ports en même temps, puisque d'une certaine façon, ils communiquaient naturellement, on va dire?
Oui. Là, on a... Alors, On a effectivement réalisé des carottages dans certains secteurs du port rectangulaire, du port commercial. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement avec nos collègues tunisiens, c'est l'embouchure. C'est la jonction entre ce port et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, l'embouchure, elle est complètement colmatée. C'est un parc. Et on peut carotter les pieds à sec dans ce parc. Donc ça simplifie beaucoup les opérations techniques. Donc l'embouchure, quand même, c'est assez... L'entrée du port, c'est quand même assez important. Et les premiers résultats radiocarbone qu'on est en train d'obtenir, il faut encore être un peu prudent, mais ils remontent au 6e, 5e avant Jésus-Christ. Donc déjà, on a des strates encore plus anciennes. Et vous rappelez que l'idée absolue, presque, on a tous dans la recherche, dans toutes les recherches, même au-delà de la recherche archéologique ou géoarchéologique, un Graal, c'est de réussir à trouver le port légendaire de la princesse Elissa.
C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, de trouver ce port légendaire. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Jean-Philippe Gouarant, c'est que l'analyse de ces sédiments, elle est utile, on le comprend à l'archéologie, mais qu'elle nous renseigne aussi sur l'environnement, le climat, le niveau de la mer à ces époques-là. C'est pas des informations non plus négligeables. Et c'est là où cette géoarchéologie est à la frontière entre plusieurs questions, finalement.
C'est vrai, c'est vrai. On dit souvent, l'actuel est une clé pour comprendre le passé, et le passé est une clé pour comprendre l'avenir. Et quand on travaille sur les ports antiques, je vous ai parlé tout à l'heure du niveau de la mer à l'époque antique. Eh bien, on l'a trouvé. Et le niveau de la mer à l'époque antique était en dessous du niveau de la mer actuelle, puisqu'on a un réchauffement climatique, donc il est en dessous, à peu près à 50 cm en dessous. Et alors, le niveau de la mer, il bouge, comment on peut le retrouver? C'est très difficile. Et on a de la chance, parce que quand on travaille en contexte archéologique côtier et portuaire, le niveau de la mer laisse sur les structures portuaires, sur les môles, une ligne de coquillage composée de vermets, de bananes, un petit peu d'huîtres aussi, une ligne de coquillage qui matérialise parfaitement la position du niveau de la mer à l'époque antique. Alors on fait ensuite, donc quand on découvre cette ligne de coquillage fossile, on fait deux analyses. La première, c'est une datation radiocarbone pour dater ce niveau marin ancien. Est-ce qu'il est punique? Est-ce qu'il est romain? Et ensuite, on mesure la ligne de coquillage antique avec la ligne de coquillage actuelle qui se développe aujourd'hui sur les quais actuels de Carthage.
Donc on perçoit bien finalement l'intérêt de cette géoarchéologie, une méthode finalement qu'on peut exporter dans tous les ports. C'est ce que vous faites aussi, Jean-Philippe Gouarant. Vous ne vous contentez pas, entre guillemets, de Carthage. Vous allez aussi explorer des ports étrusques, d'autres ports antiques.
Oui. Alors on a effectivement, et on essaye d'étudier d'ailleurs, les deux ports de façon synchrone. Le port d'origine, le Tyr, au sud Liban, et qui a fondé donc Carthage, un deuxième port. Et on essaye aussi d'étudier d'autres ports, les ports romains, notamment le port d'Ostie, et un petit peu plus au nord, les ports étrusques, qui n'ont pour l'instant, c'est un autre mystère ça, n'ont jamais été retrouvés. Aucun port étrusque n'a été retrouvé. On a les ports puniques, on a les ports romains, mais on ne retrouve pas les ports puniques, on ne sait pas pourquoi, ça c'est une autre énigme.
C'est une autre énigme que vous viendrez peut-être un jour nous raconter à ce micro. En tout cas, on vous souhaite de trouver évidemment ce port légendaire, le port d'Elissa de Carthage, le premier port. Et si vous le trouvez, vous nous faites signe et puis vous revenez.
Ok.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny à la réalisation, Olivier Bétard. Merci à Raphaël Rousseau aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.